Alléluia, c'est bon de pouvoir chanter et prendre le temps de louer Dieu. C'est bon de pouvoir simplement dire, Dieu, merci. Et beaucoup de paroles, finalement, ont décliné notre merci, notre amour, notre envie d'être et de poursuivre avec lui. Et je vous invite à poursuivre maintenant, alors qu'on ouvre la parole de Dieu, cette parole vivante qui a toujours quelque chose à nous dire. Et comme Céline nous a encouragé à prier, restons attentifs à ce que je vais partager ce matin. J'ai prié que le Saint-Esprit, mon besoin maintenant, c'est que le Saint-Esprit m'aide à communiquer. Et puis je crois que ce matin, il va nous parler aux uns et aux autres. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à plonger? Merci, on va y aller. Pendant que nous étions au camp il y a 10 jours avec Adoc, tous les matins, on a pris un temps pour étudier cette parole vivante, pour l'ouvrir ensemble. Et la lettre qui nous accompagnait dans le camp, c'était 1 Pierre. Et j'ai beaucoup apprécié ces moments. C'était comme un peu une colonne pendant le camp. J'étais dans un des groupes, nous étions par 5, j'étais dans le groupe de Xenia, qui nous a conduit magnifiquement dans cette étude, dans les questions que l'on pouvait se poser. Et puis il y a eu des richesses, des partages, et j'aimerais retirer quelque chose de ce temps. Et je me suis inspiré de cette lecture de Pierre pour, ensemble ce matin, écouter cette parole. Juste quelques mots par rapport à Pierre, donc cet apôtre qui a écrit cette lettre aux chrétiens qui étaient en Turquie actuelle. Et ils étaient disséminés, et malheureusement il y avait déjà la persécution qui opérait contre les chrétiens, contre ces gens qui osaient adorer un autre dieu que César. Et les Romains n'aimaient pas du tout cela. Et beaucoup déjà avaient la pression de la persécution, des souffrances devaient se cacher. Et ce n'était pas évident. Et Pierre a écrit cette lettre qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette lettre, il parle de la persécution, il parle de l'épreuve, il parle de la souffrance. Et il ose dire jusqu'à ce que ces choses-là participe au fait de devenir toujours plus semblable à Christ. Que ça épure l'être intérieur, le prépare pour la fin étant ce temps d'éternité que nous passerons avec Dieu. Et au tout début de la lettre, dans les versets 3 et 4 du chapitre 1, il dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc il dit à ces gens, ces hommes et ces femmes comme vous et moi, vous avez une espérance vivante, grâce ou par la résurrection de Jésus. Vous avez reçu cette vie nouvelle parce que vous avez choisi de suivre Christ et pas suivre d'autres dieux ou d'autres idoles. Vous avez choisi de suivre Christ et vous avez une espérance vivante. Et ce vivant, il ne résonne pas juste pour quelques années, mais il résonne pour l'éternité, comme on l'a chanté. Et il continue en disant, « Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. » Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des héritages ici, de vos parents, de vos grands-parents. Si vous avez reçu, ou si vous pouvez imaginer recevoir quelque chose, un peu d'argent, une maison ou d'autres biens, ça va certainement vous aider, ça va être une reconnaissance, mais en même temps cet héritage, il va s'abîmer, il va s'éroder, il va petit à petit disparaître peut-être aussi. Tandis que Dieu nous dit, j'ai un héritage pour toi qui va durer, qui ne va pas être corrompu, qui est magnifique. Et c'est cette vie avec Dieu, ce qu'on appelle la vie éternelle, cette communion avec Christ que nous débutons aujourd'hui et qui se poursuit juste dans l'éternité. Et il commence la lettre avec ça, comme mettre une base. C'est l'espérance vivante que l'on attend, que l'on poursuit, dans laquelle nous sommes engagés. Bien sûr, dans cette lettre, il y a plein d'affirmations que Pierre reprend et dit que l'amour de Dieu fait que nous sommes choisis, que nous sommes aimés, que nous sommes saints. Enfin voilà, c'est très encourageant. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur un mot qui est dit 3 fois dans cette lettre, qui m'a interpellé, mais qui a interpellé aussi quelques personnes dans le groupe avec lequel je faisais l'étude biblique. Le mot, c'est sobre. La sobriété. Pierre l'utilise 3 fois dans cette lettre, et dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé 6 fois. Donc la moitié dans Pierre, et c'est intéressant de se pencher un peu là-dessus, qu'est-ce que Pierre pouvait dire à ces chrétiens du 1er siècle, dont on ignore quand même pas mal les conditions de vie, il faut bien le reconnaître. Qu'est-ce qu'il pouvait dire aux chrétiens du 1er siècle et à nous aujourd'hui? Comment est-ce que le Saint-Esprit nous parle par ce mot « sobre » Ça a attiré mon attention et j'aimerais lire ces 3 versets de l'Épître avec vous. Si vous pouvez mettre le slide, merci beaucoup. Tout d'abord, c'est dans le chapitre 1 au verset 13. « C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Soyez sobre et mettez toute votre espérance, hein, dont on a parlé. Deuxième verset, quelques chapitres plus loin, chapitre 4, verset 7. « La fin de toute chose est proche. » Il y a déjà 2000 ans, la fin de toute chose est proche, on va en parler. La fin est toujours plus proche. Et ensuite, Pierre dit, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Soyez sobres, livrés à la prière. Et finalement, dans le dernier chapitre de l'Épître, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, par rapport à l'ennemi, l'adversaire, le diable. De quelle sobriété parlons-nous? Quand j'ai dit sobre, peut-être vous avez pensé d'abord, et c'est la première définition dans le dictionnaire, à la nourriture ou à la boisson, et on parle d'être sobre, ou de ne pas trop manger ou de ne pas trop boire, c'est une attitude sobre. Prendre à manger, boire avec modération. Et même sobre peut aller ou peut être compris comme ne pas boire de boisson alcoolisée. On parle de tempérance ou la croix bleue ou ce genre de mouvement. Donc, une sobriété, c'est agir avec modération. Mais dans cette lettre de Pierre, il ne parle pas de nourriture. Il ne parle pas de boisson dans les autres textes autour. Donc, que veut-il dire ? Alors il prend ce terme et il en fait quelque chose de figuratif, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, et c'est le fait d'être, on pourrait dire, libre de toute forme d'ivresse, de s'écarter de toute forme de d'ébriété, qu'elle soit mentale ou spirituelle, de s'écarter de tout excès, de toute passion, de toute confusion, afin de vivre avec modération, c'est-à-dire avec équilibre, avec une maîtrise de soi dans les différentes sphères de la vie de tous les jours. Je dirais aussi, c'est peut-être faire de la place pour l'essentiel. Dans des vies qui sont tellement remplies, et en tout cas c'est le cas aujourd'hui, nos vies sont tellement remplies de plein de choses que parfois on a de la peine à être sobre pour laisser de la place à l'essentiel qui est cette espérance vivante, qui est la prière, qui est Dieu. Certaines traductions traduisent sobre comme ne pas se laisser distraire. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Ne pas se laisser distraire. Il y a tellement de raisons de se laisser distraire de ce qui est essentiel, c'est-à-dire Dieu. Reprenons donc ce premier texte. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apporté lorsque Jésus apparaîtra. Donc Pierre nous invite à développer une clarté d'esprit, à développer une capacité à voir avec lui ce qui se passe, afin que les décisions que nous allons prendre dans notre vie découlent non de nos distractions ou du trop-plein, mais de cette focalisation sur qui est Dieu. C'est comme prendre une position alerte par rapport à la révélation de Christ qui va encore venir, où on attend cette révélation complète de qui est Christ. Parce qu'il faut bien dire que les soucis de la vie peuvent être parfois très oppressant, très perturbant. Et on a tous des phases ou des périodes où nous pouvons être en souci. Parfois pour de bonnes raisons, mais parfois ce souci peut devenir tellement grand qu'il empêche notre écoute de qui est Dieu. C'est bon, et nous avons besoin de nous faire du souci pour nos enfants, pour savoir comment on va les éduquer, comment on va les amener dans la vie jusqu'à la stature d'adulte et d'adulte en Christ. Mais des fois, ça peut faire tellement de soucis que c'est comme si ça bouche nos oreilles ou notre cœur à l'espérance qui est là. On pourrait dire que Pierre nous appelle à ne pas nous laisser intoxiquer par des choses qui sont étrangères à Dieu, à ne pas nous laisser intoxiquer par ce qui est de l'ordre de la non-confiance. Ça m'est déjà arrivé quelquefois de me trouver avec deux, trois personnes qui parlent tellement de la retraite, alors qu'on en est encore à 10 ans, en tout cas ma génération, mais c'est un souci primordial, et ça fait que tout doit être calculé en fonction de ça. Alors, c'est bon de se soucier un peu de la retraite, il faut savoir comment vivre après, mais où est la confiance en Dieu? Où est l'attente de Dieu? Il faut vivre avec les pieds sur terre, donc la retraite en fait partie, mais ce qui est, supérieur, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Qu'aujourd'hui, il prend soin de nous, qu'il nous aidera, qu'il sera toujours là lorsque nous aurons 65 ans, 66 ou 67, on verra bien. Dieu va nous aider. Et Pierre nous appelle à être sobre et à mettre toute notre espérance en lui. Pardon, en Dieu donc. Je ne sais pas si vous avez regardé les Jeux Olympiques. Moi, j'ai bien regardé plusieurs épisodes. Et je trouve ça assez génial de voir ces hommes et ces femmes qui font certains records ou qui se dépassent le jour J. Alors, parlons d'un héros de Genève, puisque nous avons un nageur qui a gagné une médaille de bronze. Il y avait 40 ans qu'il n'y avait plus de médaille en nage au niveau suisse. Et voilà que Jérémy Desplanches s'est lancé dans ce 4 fois 50 mètres et il a tiré jusqu'au bout et à la dernière seconde, il a juste gagné. Il a eu sa médaille pour 5 centièmes. Jérémy Desplanches est un héros. Et j'aime beaucoup entendre ce que ce genre de personnes disent après la victoire. Alors bien sûr, il était reconnaissant, et il a remercié sa famille, son staff, etc. Et je trouve toujours beau qu'il pense à tous les autres qui étaient là avec lui. Et puis après, quand on va plus loin, ce que souvent beaucoup de champions vont dire, c'est « mais ça fait des années que ma seule obsession, c'était une médaille à Tokyo ». Et il l'a dit à peu près littéralement. Ça faisait 5 ans ou 7 ans qu'il se levait le matin et son idée, c'est une médaille aux Jeux Olympiques. Et ensuite, il dit, j'ai fait plein de sacrifices pour ça. Ben oui, il se levait pour travailler, pour développer sa musculature, pour les mouvements, etc. Et puis, il faut aller jusqu'au millimètre près la manière dont on entre dans l'eau. Vous pouvez imaginer tous les détails. Et puis, ça demande des sacrifices en termes de relations, en termes peut-être de voyage ou de certaines choses. Il n'a pas évoqué. Mais je trouve incroyable. Comment des athlètes arrivent à se focaliser à ce point-là sur une mission? Ce n'est pas pour rien que Paul, d'ailleurs, parce que c'était la même chose à l'époque, il reprend souvent l'image de l'athlète qui court pour un but. Et là, cet homme a fait preuve de sobriété dans un certain sens. Il s'est abstenu d'un certain nombre de choses pour pouvoir être fit et prêt le jour J. Est-ce que nous arrivons à nous abstenir d'un certain nombre de choses pour ne pas nous laisser distraire par rapport à cette espérance vivante? Ce que j'aime bien ce matin, nous l'avons fait ensemble, en étant tous ici pour louer Dieu. Nous avons focalisé notre attention, notre cœur sur Dieu. Nous aurions pu faire plein d'autres choses ce matin. Nous aurions pu aller nous promener, nous aurions pu préparer un bon repas, nous aurions pu dormir, nous aurions pu travailler encore un peu, comme ça on n'y a pas assez travaillé, mais voilà, il y a plein de choses qui auraient pu être là pour nous tirer ailleurs, et ensemble, en communauté, nous avons pris le temps de focaliser notre attention sur cette espérance vivante qui est Christ. Et ça fait une différence dans nos vies. Ce n'est pas négligeable. Ça nous conduit à orienter nos décisions en fonction de Dieu et pas juste parfois de tous les soucis qui peuvent nous submerger. Le deuxième texte. Je ne sais pas pourquoi Pierre a dit trois fois « Soyez sobre », il ne l'a pas dit. Mais apparemment, l'Esprit l'a conduit à répéter ça trois fois. Et donc, au chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Gardez l'esprit éveillé, soyez sobres dans la maîtrise de soi, dans le recueillement », disent d'autres traductions. La fin de toute chose est proche, la fin des temps est là, elle est bientôt là, je ne sais pas quel terme il faut utiliser puisque Pierre le disait déjà, mais nous nous rapprochons. Nous vivons la fin des temps entre le moment où Christ est retourné vers son Père et le moment où il vient chercher l'Église, c'est ce qui s'appelle dans le Nouveau Testament la fin des temps. Et on s'en approche pour le moment vraiment de la fin. Et pourtant, Pierre dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Comme il y avait la persécution de l'Empire romain, je pense qu'il y avait beaucoup de discussions et probablement trop de discussions au milieu des chrétiens de ce temps-là en se disant, mais la fin est vraiment toute proche. Alors je ne sais pas quelles conclusions ils ont tirées par rapport à la persécution, mais ça devait beaucoup les préoccuper, plus que nécessaire, certainement. Alors que Pierre leur dit, mais prenez le temps de la prière, prenez le temps de la communion avec votre Père Céleste, avec Jésus qui vous aime, avec l'Esprit en vous qui vous anime. Et je me demande là s'il n'y a pas un message pour nous aussi aujourd'hui. Prendre le temps de la prière. De la prière dans le sens de cette présence à Dieu, présence de Dieu à nous, où on est juste là avec Dieu. Où on se laisse conduire dans cette intimité, où nous sommes fils et filles de Dieu, enfants, plus orphelins comme nous l'avons chanté, mais fils et filles de Dieu. Alors oui, il y a des moments où on va prier spécifiquement pour certaines choses, mais simplement d'être là dans la présence de Dieu. Avec la pandémie qu'on a vécue, et qui est toujours là d'une certaine manière, il y a beaucoup de discours sur la fin des temps. Et il y a trop de discours sur la fin des temps, il y a trop de choses qui traînent sur Internet et ailleurs. Alors c'est bien de se poser certaines questions, et je m'en pose aussi. Mais qui est aux commandes? C'est Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est sur Internet, c'est vrai. Parfois on fait ce raccourci, ah ben puis c'est publié et accessible par le monde entier, c'est que c'est vrai. Mais non, pas du tout. De loin pas. Et faisons attention, ne perdons pas trop de temps sur toutes sortes d'images et d'interprétations, alors que simplement Jésus nous dit, je vais revenir, ça on le sait. Et il a expressément dit que nous ne saurons pas quand exactement il reviendra, c'est marqué dans le Nouveau Testament, mais il nous invite à veiller et à être sobres et à nous attendre à lui. Et donc, faire ou créer de la place pour la prière, pour cette communion avec Christ. Et c'est un énorme défi pour chacun d'entre nous, pour moi en premier. Je suis vite happé par faire ceci, faire cela, à penser à ceci, à penser à cela. Et puis de temps en temps, eh bien, voilà, j'ai une régularité à certains moments dans la prière, mais il y a aussi des fois, je me dis, ah ben, dans mon agenda, je vais inscrire là, je vais prendre un temps de prière. Là, je ne vais pas manger ce midi et je vais prendre le temps pour prier, pour écouter, pour être avec. Et je sais que si je ne le fais pas, ou si je ne mets pas des fois dans l'agenda, eh bien, ça passe à la trappe. Parce qu'il y a tellement de choses qui envahissent ma vie, nos vies. Il y en a des très bonnes, puis il y en a qui le sont un peu moins. Soyez sobres afin de vous livrer à la prière, afin de faire équipe avec Dieu. J'aime bien parler de faire équipe avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit te conduit? Comment est-ce qu'il t'éclaire dans cette semaine avec les rendez-vous que tu auras? Comment est-ce qu'il t'éclaire lorsque tu seras chez le médecin, lorsque tu seras avec un collègue à qui tu dois apprendre un certain nombre de choses, le Saint-Esprit peut te donner des pensées, une attitude, t'aider à aimer celui qui a priori est un peu moins aimable, t'aider à donner une parole d'encouragement alors que peut-être toi-même t'es pas dans la meilleure des journées. Mais en faisant de la place, en étant vigilant, en étant sobre, il y a cette disponibilité du cœur qui peut aider. Puis quand ça arrive, on est tout content. Cette semaine, en vue d'un comité que j'avais le mercredi soir, alors que je n'étais pas en train de me préparer pour ce comité, je faisais autre chose. Tout à coup, je reçois cette pensée et un texte biblique que j'ai pu transmettre à ce comité et ça correspond à quelque chose. Puis je me dis, waouh, mais j'aimerais que ça se passe plus souvent. Et je crois que Dieu est là pour que ça se passe plus souvent. Suis-je là? Et le dernier, enfin le troisième verset, 5-8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. » J'ai parfois l'impression qu'on a envie de dévorer tellement de choses dans notre vie qu'on se fait dévorer par l'arrière. J'ai parfois l'impression qu'on a envie et on nous propose de tout essayer, d'aller à tel endroit, de regarder telle chose, de voir tel film, etc. C'est sans fin, en fait, que parfois on oublie sa garde arrière. Parce que, quel que soit le temps, que ce soit le premier siècle pour les chrétiens de Pierre, nous aujourd'hui, le diable reste comme un lion qui rugit et qui cherche à qui dévorer. Ça ne veut pas dire qu'il va tout dévorer, mais il cherche un espace où tout à coup il y a un manque de vigilance, un manque d'attente de qui est Dieu, un manque finalement peut-être de sobriété. Et là encore, Pierre nous appelle à veiller. Un thème qui a été déjà donné par Jésus où il disait à ses disciples « Veillez et priez ». Un thème qui est repris dans d'autres endroits du Nouveau Testament. Pierre nous dit « Faites attention, votre foi, elle est éprouvée, elle va être éprouvée. Elle est éprouvée parfois c'est les désirs intérieurs, parfois c'est la pression du monde autour de nous, de la société, la pression professionnelle ou des circonstances qui se passent, qui mettent une pression sur nous. Parfois, c'est des attaques de l'ennemi et notre foi est testée. Et si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne sommes pas dans une forme de sobriété, c'est-à-dire d'attente de Dieu, de faire de la place pour Dieu, ben, des fois, on va succomber à ces attaques ou on va se faire dévorer un bout. Alors, suivons le conseil de Pierre plutôt que se faire dévorer. Soyons sobres, soyons vigilants, regardons avec les yeux de Dieu ce qui se passe autour de nous. J'en ai certainement déjà parlé, mais je le redis encore, j'ai l'impression qu'une des idoles aujourd'hui, c'est la technologie. Et j'ai envie de parler d'ivresse technologique. Nous sommes prompt à être ivre technologiquement parlant. Tellement nous sommes attachés à tous ces gadgets électroniques qui, d'un côté, nous aident beaucoup, mais de l'autre côté, je crois, remplissent tellement nos pensées ou nos images. Et puis on est tout le temps là, en train de sortir et de regarder. Mais on faisait quoi il y a 10 ans? Il y a 20 ans? Il y a une ivresse technologique qui nous éloigne de Dieu. Il y a une ivresse du bien-être, de l'individualisme qui nous éloigne de Dieu. Quelle sobriété pouvons-nous mettre en place? Quelle maîtrise de soi sommes-nous prêts à appliquer? Comment livrer combat contre cette ivresse d'un nouveau genre? On parle de l'ivresse pour le vin d'habitude. Le vin n'est pas mauvais en soi, mais en consommer trop est très mauvais pour son être physique, mental et spirituel. La technologie n'est pas mauvaise en soi, elle aide dans tellement de situations et on est tellement reconnaissant pour plein de choses qui peuvent se passer. Mais elle nous pourrit la vie à plein d'autres moments. Et comment est-ce que j'arrive à cheminer? Et je n'ai pas une réponse à donner qui irait pour chacun d'entre nous. Mais j'invite chacun de vous, chacun de nous, parce que je m'invite aussi à faire place à la prière et à écouter Dieu, comment est-ce que je peux mieux utiliser la technologie. Alors souvent c'est moins l'utiliser, mais qu'est-ce que veut dire moins par rapport aux besoins dans ma vie de tous les jours et mes besoins peut-être professionnels qui sont tout à fait variables selon les personnes que nous sommes ici. Mais je vous mets au défi, si je peux dire ainsi, de prendre le temps comme un temps de recul où je me dis, mais comment est-ce que je vais gérer mes notifications? Comment est-ce que je vais gérer toutes les lettres de nouvelles auxquelles je me suis abonné et qui finalement ne servent pas à grand-chose? Puis je pourrais continuer avec plusieurs détails comme ça. Combien de réseaux sociaux dois-je suivre, etc. Je pense que là, il y a une piste pour nous aujourd'hui. Pierre n'aurait jamais imaginé qu'on puisse penser de ça. Il ne comprendrait même pas ce que je dis. Mais par l'esprit, il peut parler aussi au monde d'aujourd'hui et nous aider à cheminer. Alors qu'on termine pour beaucoup cet été où le rythme a été un peu différent, on va reprendre, ou pour certains on a déjà repris, je dirais le travail, la scolarité, les études, les formations. Comment est-ce que je vais vivre cette période? Profitez, pour ceux qui le peuvent encore, où il y a une semaine de vacances ou un peu moins compliqué, d'avoir un moment de recul et vous dire, Seigneur, comment est-ce que je peux progresser, avancer avec toi? Comment est-ce que je peux développer cette vie de l'esprit, cette attente intérieure qui fait de la place à Christ, à sa parole, à sa pensée? Alors, comment rester lucide? C'est un peu de ça qu'il s'agit, ou vigilant. Avec ce premier verset, c'est préserver la grâce comme une source de vie, et non le mérite, mais préserver la grâce et cette espérance de la vie. Avec le deuxième verset, c'est faire place à la prière, à l'écoute, au temps avec Dieu. Et le troisième texte, c'est discerner où est l'adversaire. Ne pas se tromper d'adversaire, mais rester vigilant pour s'éloigner ou éviter qu'il nous dérobe. La sobriété nous amène à vivre une vie plus sainte et plus saine, ou une vie plus saine et plus sainte. C'est bien égal, mais ces deux termes très proches parlent de notre corps que Dieu nous a donné, dont nous avons besoin à prendre soin, et parlent de cette vie avec Dieu en esprit dont nous avons besoin de prendre soin aussi. Je vous invite à prier. Seigneur, tu es là avec nous ce matin, par ta parole. Tu nous invites à nous donner à toi. Tu nous invites à tout mettre de côté pour te connaître. Tu nous invites à faire preuve de sobriété. Nous confessons que ce n'est pas simple par rapport aux défis qui sont les nôtres dans notre génération. Nous confessons que nous sommes vite distraits. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à faire un trait vers toi plutôt que être avec toutes sortes de traits à l'extérieur de toi. Je prie que tu nous aides et je m'oppose à la distraction. Et j'invite, Seigneur, que par ton esprit, je te demande, Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à nous focaliser sur toi. Ça ne veut pas dire qu'on devient des extraterrestres, mais qu'on soit des hommes et des femmes ancrés sur cette terre, hein, animés par ta parole et par ton esprit. Amen.